Il y a des questions. C'est bien, du reste. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas hésité, et les questions éveillent les racibles. Parce qu'on voit qu'on n'a pas compris, alors on fonce. Alors, ne vous inquiétez pas, si les réponses sont raides, et elles doivent être raides, pour ne pas vous laisser tomber dans le précipice. Et il faut continuer mais cela me gêne de mettre la dimension religieuse de la personne dans le prolongement des six autres dimensions de la personne. Pas dans le prolongement, elle est fondamentale. Elle est dans le prolongement selon le devenir, mais pas selon la dimension. Elle est fondamentale. Voyez, alors je comprends. Si vous mettez dans le prolongement, je suis tout à fait d'accord, c'est très gênant. C'est pas le prolongement. C'est fondamental. Que l'homme soit dépendant de Dieu, il le découvre très lentement. Des fois même les étudiants d'ici, ils le découvrent très lentement. De découvrir que la dimension religieuse est une dimension fondamentale. Donc, premier, puisque Dieu est créateur de l'âme. Bon, ça, évidemment, je le dis au terme. Et je découvre selon un devenir. Au point de vue chrétien, je découvre tout de suite Dieu créateur, mais pas au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, je ne dis pas tout de suite, hein, je crois en Dieu créateur du monde visible et invisible. Vous le dites ça au point de vue de la foi, mais pas au point de vue métaphysique. Au point de vue métaphysique, la dépendance à l'égard de Dieu est ultime. Elle est dernière. Mais elle est dernière. Alors, attendez. Vous voyez, cela me gêne de mettre la dimension religieuse de la personne dans le prolongement des six autres dimensions de la personne. Alors, vous les mettez quand? Au point de départ? C'est la foi. Ce serait du fidéisme. Elle est au terme. Une fois qu'on a découvert l'existence de Dieu, je découvre que Dieu est créateur de l'âme, directement de l'âme. C'est la création. Le problème de la création, au point de vue métaphysique, n'est pas premier. Il est ultime. Alors, mettre la dimension religieuse de la personne dans le prolongement. C'est pas le prolongement, puisque c'est fondamental. C'est très important. Je comprends très bien que le schème, si on reste au niveau du schème, alors on dit que c'est dans le prolongement. Mais c'est pas le prolongement, puisque c'est la découverte d'un principe ultime. Et la découverte du principe ultime est à la fois première et ultime. La dimension religieuse de la personne n'est-elle pas plutôt le résultat du regard de sagesse de la personne sur son autonomie qui s'achève dans l'adoration? C'est très juste, mais je ne vois pas pourquoi ça s'oppose. La dimension religieuse de la personne n'est-elle pas plutôt, donc c'est pour montrer que la dimension religieuse de la personne n'est-elle pas plutôt le résultat du regard de sagesse de l'homme sur sa propre autonomie, c'est sûr, sur la création. montrer que mon âme est créée par Dieu. Donc c'est le problème religieux. Mais le problème religieux est métaphysique. C'est ça que qui a l'air de dire que c'est pas métaphysique. Parce que ça devient au terme. Parce qu'il suppose la création. La métaphysique regarde tout du point de vue de l'être. Tout ce qui est peut être regardé métaphysiquement. Or, une des choses qui me semble principale au point de vue de l'être, c'est de voir que nous sommes des êtres créés. Notre âme est créée. Et quand je dis que mon âme est créée, c'est un regard métaphysique sur l'âme. Le regard religieux est métaphysique. Ne faites pas du point de vue religieux un regard anthropologique. Le regard religieux est un regard métaphysique. C'est pour ça que supprimer le regard religieux de la dimension de l'homme, c'est la destruction de l'homme. Au point de vue métaphysique, nous sommes des êtres créés dans notre être, pas seulement dans notre vie, dans notre être. Et ça, c'est capital de comprendre ça. La dimension de la dépendance à l'égard de Dieu est capitale. On part au point de départ de l'autonomie. C'est la première chose que je vois. Parce que je n'ai pas l'expérience de ma dépendance à l'égard de Dieu. Je serais... Vous savez, quand on me honte, on a peur de montrer quand le courant électrique est très fort dans les petites cabines dans lesquelles on touche ça, on met tout de suite un dessin de mort. Je pense toujours à cette chose que si on avait l'expérience de la création, donc l'expérience de ma dépendance à l'égard de Dieu, dans l'immobilité absolue de l'absolu dont j'ai l'expérience. Je n'ai pas l'expérience du Dieu créateur. C'est ennuyeux. Mais je n'ai pas l'expérience du Dieu créateur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'expérience que ce n'est pas métaphysique. La métaphysique ne joue pas sur l'expérience. Ça, vous tomberiez dans la perspective moderne, alors. La métaphysique ne peut être que quelque chose de vécu. Mais non, la métaphysique n'est pas vécue, puisque c'est l'être. Et l'être est plus fondamental que la vie. Là, on ramène, au fond, le point de vue religieux à la vie. Comme une expérience. On dira aux gens, mais vous avez bien l'expérience d'être dépendant de Dieu. Et les gens vous répondront immédiatement, mais pas du tout. Je n'ai pas l'expérience de la dépendance de Dieu. Je regrette, je ne sais pas. Alors, on dira, mais vous l'avez parce que vous confondez métaphysique et foi. La foi me donne la dépendance à l'égard de Dieu, mais pas la métaphysique. C'est donc très important, ça. Mais c'est pas parce que je n'ai pas l'expérience de cette dépendance à l'égard de Dieu que ce n'est pas réel. La dépendance à l'égard du Créateur est quelque chose de fondamental. Parce qu'elle est quelque chose de fondamental, elle vient en dernier lieu. Si je mettais la dépendance à l'égard de Dieu en premier lieu pour la découverte de ma personne, ce serait une confusion entre le point de vue métaphysique et le point de vue de la foi. Au point de vue de la foi, nous récitons tous les dimanches que nous croyons au Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons au Créateur de l'âme. Donc, c'est très important, ça, de bien voir ça, de bien comprendre que quand on met la dernière dimension, ça ne veut pas dire, parce que les dernières, elle est moins importante que les autres, elle est au contraire la plus radicale. Alors, je relis ça. La dimension religieuse de la personne n'est-elle pas plutôt le résultat du regard de sagesse de la personne sur sa propre autonomie? Ça implique évidemment le regard de sagesse de la création, de sa propre autonomie, qui s'achève dans l'adoration. Vous voyez, tout de suite, je prenais, c'est le point de vue de la vie. Dans cette lumière, la découverte de l'existence de Dieu viendrait reprendre de l'intérieur toutes les dimensions de la personne humaine et serait comme un nouveau regard de la personne. Je suis tout à fait d'accord. C'est un nouveau regard, mais métaphysiquement. Je ne m'arrête pas au nouveau regard. La métaphysique ne s'inquiète pas en premier lieu à la manière dont j'atteins les choses. Ça, c'est la phénoménologie. Donc, confusion entre métaphysique et phénoménologie. Dans un regard phénoménologue, tout à fait d'accord. Dans un regard métaphysique, non. Dans un regard de phénoménologie, la manière dont je veux l'atteindre, c'est la réalité. Alors que pour moi, la manière dont je l'atteins, c'est ma manière humaine de pouvoir aller jusqu'au bout de ma métaphysique. Mais c'est toujours la métaphysique. La métaphysique se termine en sagesse. Elle est sagesse. Et c'est la métaphysique. Et c'est toujours le même regard pour moi. Quand j'ai découvert l'existence de Dieu, je n'ai pas, dans mon regard de sagesse, une nouvelle connaissance. C'est la connaissance métaphysique que j'ai qui continue. À la place de regarder Dieu comme le terme, je le regarde comme point de départ. Mais pouvoir le regarder comme point de départ, il faut l'avoir regardé comme terme. Donc, la métaphysique devient sagesse tout en restant métaphysique. Je comprends que c'est assez subtil, mais c'est très important. Deuxième question. Je suis assez gêné que la dimension politique n'apparaissent pas dans les notes caractéristiques de la personne. C'est parce que justement la politique n'est pas ontologique. Je regrette, mais la politique est une construction de l'homme. Au point de vue métaphysique, il y a nature et personne. La nature fonde le point de vue commun, mais le point de vue commun est une conséquence. c'est l'homme qui fait la politique. Quand Aristote essaie de comprendre comment la politique naît, c'est à partir de la famille. Une famille, plus une autre famille, ah, politique. Trois familles entre elles forment une petite politique. La politique n'est pas... C'est très très important ça. Je sais très bien qu'en disant ça, je vais contre les tendances modernes. Mais comme nous faisons de la métaphysique et de la philosophie, on doit chercher la vérité. Après, je cherche comment guérir les gens de cette maladie. Pour Platon, la politique est au niveau moral. Ça, c'est platonicien. L'homme politique, c'est l'homme parfait. Pour Aristote, l'homme parfait est avant le point de vue politique. C'est pas le point de vue politique qui le rend parfait. C'est pas le point de vue politique qui le rend parfait. Il a beaucoup de peine avec le point de vue politique de rester parfait. Je dirais, c'est un des plus grands obstacles, du moins une des plus grandes difficultés plutôt, disons ça, de rester un homme honnête tout en étant un homme politique. Mais ce n'est pas l'homme politique qui rend l'homme parfait. C'est très important ça. Le point de vue politique est une propriété de l'homme, mais une propriété qui présuppose le point de vue moral. S'il n'y a plus le point de vue moral, il n'y a plus le point de vue politique. Parce que la découverte de la finalité ne se fait pas au niveau politique. Le point de vue de la finalité est personnel. Elle n'est pas commune, elle n'est pas politique. La politique n'a pas comme but de me donner ma finalité. J'ai considéré la politique comme un jardin d'enfants. Évidemment, quand il n'y a plus de point de vue moral, le point de vue politique donne tout. C'est ce qui arrive maintenant. C'est que le point de vue politique veut tout donner. Et alors, veut établir des lois partout. Parce que l'homme devient incapable de se conduire. Mais autre chose est le principe, autre chose la loi. C'est ça, là aussi, c'est une confusion qu'on fait très souvent, qui amène à cette confusion-là. Autre chose, le point de vue principe, je découvre le principe au niveau de la nature. Je découvre la loi au niveau politique. La politique ne me fait découvrir aucun nouveau principe. Ça, réfléchissez bien ça. Et si vous en trouvez, vous me le direz. Vous voyez, je vous ai déjà dit, au point de vue intellectuel, le grand défaut du positivisme, c'est de confondre le principe et la loi. Les positivistes voient tout au niveau de la loi et ramènent les lois à des principes. Alors, c'est très intéressant de le saisir ici. Je suis aussi gêné par la dimension politique, que la dimension politique n'apparaît pas dans les caractéristiques de la personne humaine. La personne humaine est vue au niveau métaphysique. La politique est vue au niveau moral. Alors peut-être que ça vous donne à réfléchir. Quelle différence entre le point de vue moral, politique, et le point de vue métaphysique? Le point de vue métaphysique regarde tout du point de vue de l'être. Le point de vue moral regarde tout au point de vue volontaire. Dès que je suis en face d'une réalité qui n'est plus volontaire, elle n'est plus politique. Ça, ce sont des distinctions qui sont capitales à saisir. Je comprends que ce n'est pas commode à saisir dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est quand même capable d'être saisi en comparant Platon et Aristote. Ça, on connaît ça, la comparaison entre Platon et Aristote. Pour Platon, le point de vue moral est une conséquence du point de vue politique. Et le point de vue politique n'est plus moral, il est métaphysique. Oui, c'est au fond toute la grande distinction entre Platon et Aristote. Et cette distinction de Platon et Aristote, il faut y revenir tout le temps, parce qu'elle est capitale. Elle se retrouve tout le temps dans la pensée. Encore aujourd'hui. C'est ça qui est très, très étonnant. Tellement cette distinction est importante. L'homme fait de la politique. C'est une œuvre humaine, la politique. Ce n'est pas une œuvre divine. C'est une œuvre humaine. C'est l'homme qui fait la politique. Et le point de vue politique part de la nature humaine qui lui est donnée par Dieu. La politique ne changera pas la nature humaine. Aujourd'hui, la politique veut changer la nature humaine parce qu'il y a une confusion entre la politique et la métaphysique. Et ça, c'est platonicien. Oui. Et c'est très important, c'est que le point de vue de la finalité m'est donné par le point de vue moral. Et si je ne l'ai pas au point de vue moral, le point de vue moral, c'est-à-dire directement au point de vue de la nature humaine, la finalité. Le point de vue politique ne me donne pas la finalité. Il n'y a pas de finalité politique. Vous voyez, au sens absolu. Parce que la politique est au niveau des moyens. Elle est l'agencement des moyens, l'organisation des moyens. Toujours en vue de la fin qui m'est donnée comme une fin naturelle. Ma fin n'est pas une fin politique. C'est aujourd'hui, du moins aujourd'hui, ça a été depuis Platon, c'est encore aujourd'hui, que le point de vue politique me donne une fin humaine. Alors, je continue. Vous voyez, je m'excuse, mais c'est l'intérêt d'avoir devant soi un texte, parce qu'on peut montrer toutes les petites confusions qui se font et qui expliquent la gêne. Je comprends très bien. La gêne, parce qu'on n'a pas saisi la distinction. Alors, je suis aussi gêné que la dimension politique n'apparaisse pas dans les notes caractéristiques de la personne humaine. Vous comprenez, la personne humaine s'est développée, je vous l'ai dit, au point de vue psychologique. La personne humaine s'est développée au niveau philosophie du vivant. De fait. Parce que la scolastique a laissé tomber le point de vue de la personne. Donc, ça s'est développé psychologiquement, et non pas du tout métaphysiquement. La personne humaine est une réalité métaphysique. La preuve, c'est qu'on l'emploie pour dire que Dieu est personne. Si vous faites de la personne le point de vue politique, Dieu est donc dans la politique. Et c'est peut-être l'erreur fondamentale d'un Maurras. Il n'a pas vu avec suffisamment netteté ce qu'était la personne. Le fameux adage selon lequel l'homme est un animal politique, ne doit-il pas nous interroger sur ce... L'homme est un animal politique. Est un animal qui fait de la politique. Ah. Tandis que l'homme est un homme moral, est une personne. Alors, il se fait l'homme. Et il fait sa politique. On est responsable de la politique qu'on a. C'est sûr. C'est pas un don de Dieu immédiatement, comme une chose naturelle. La politique n'est pas naturelle. Elle est fondamentalement naturelle. Mais elle n'est pas formellement naturelle. C'est important à bien comprendre ce que c'est que le bien commun. Fin de la politique, le bien commun. Le bien commun n'est pas le bien individuel et personnel. Bien que le bien commun assemble, mais en tant qu'il est le bien commun, il n'est pas le bien personnel. Il faut distinguer les deux. Autrement, tout de suite, Platon revient. C'est très intéressant de voir ça parce que ça montre combien, au fond, Platon demeure toujours là, présent. Et que si on est platonicien, je ne peux pas saisir ce qu'il y a d'erroné dans beaucoup de perspectives actuelles. Les perspectives actuelles sont très platoniciennes. Bon, continuons, parce qu'il est grand temps. Le fameux adage selon lequel l'homme est un animal politique, ne doit-il pas nous interroger sur ce point ? Bon, alors cet adage, l'homme est un animal politique, est-il vrai au niveau métaphysique ? Donc, l'ermite qui dépasse le point de vue politique, n'est plus un homme. Comment comprendre, dans la lumière de la recherche métaphysique sur la personne, l'affirmation d'Aristote selon laquelle l'homme qui vit séparé de la communauté est soit une bête, soit un dieu. par la contemplation. L'exemple des grands hommes politiques ne nous montre-t-il pas un type de personnalité particulier? Ces grands hommes politiques, sont-ils grands par la politique ou sont-ils grands parce qu'ils sont eux? Sont-ils grands par la politique? Est-ce que c'est les politiques qui les ont rendus grands? Ou ils étaient grands et par le fait même qu'ils sont grands, ils ont fait une grande vision politique? Oui, il faut se demander, c'est une attribution essentielle. C'est toujours la personne humaine et politique. Et pour faire une grande politique, il faut avoir une vue personnelle grande. De fait, si nous n'intégrons pas la dimension politique dans le regard sur la personne humaine, comment garder le réalisme sur l'importance du milieu qui n'est pas lié seulement au corps, mais aussi à la dimension spirituelle de la personne? Ah, attention, attention, c'est pas comme ça. À bien répondre. La personne, je vous ai dit, elle est au niveau de la manière dont je vis, dans la manière dont je tends vers ma finalité. Donc elle implique tout le point de vue de l'exercice et du poste, du comment. Mais le comment a des niveaux différents. Il y a le pos métaphysique d'une nature rationnelle. Et ce pos métaphysique d'une nature rationnelle, c'est justement la personne. Je lis. De fait, si nous n'intégrons pas la dimension politique dans le regard sur la personne humaine, je voudrais savoir, à cette question-là, si la dimension politique me donne une nouvelle finalité. Première interrogation. Est-ce qu'en faisant de la politique, j'ai une nouvelle finalité humaine, ou le point de vue politique est pour que j'atteigne ma finalité? L'homme est-il pour la politique ou la politique est-elle pour l'homme? Vous savez, c'est ce que je vous ai déjà dit, cette chose-là. L'homme est-il pour la science ou la science est-elle pour l'homme? Le point de vue politique est-il pour l'homme ou est-ce que l'homme est-il pour la politique? C'est une question de finalité. Est-ce que la politique me donne une nouvelle finalité humaine? De fait, si nous n'intégrons pas la dimension politique dans le regard sur la personne humaine, comment garder le réalisme sur l'importance du milieu qui n'est pas lié seulement au corps, mais aussi à la dimension spirituelle? L'importance du milieu vient du fait même que la personne, c'est ce regard du comment j'atteins ma finalité. Et dans ce comment j'atteins ma finalité, je suis dépendant du milieu dans lequel je suis. Je suis dépendant du milieu. Ce milieu m'influe. Mais ce milieu ne me finalise pas. Ce n'est pas ce pose, ce comment qui me finalise. Je suis finalisé par ma nature. C'est ma nature humaine qui me finalise. Alors, est-ce que le point de vue politique change de nature? C'est une grave question. Vous savez, le point de vue politique socialiste identifie toujours politique et éducation. Là, on touche à un problème qui est très fondamental. Hein. Politique et éducation. L'éducation, c'est découvrir ma finalité. Ce n'est pas la donnée. Ça, c'est le tyran qui fait ça. Si vous n'avez pas ma finalité, vous êtes des imbéciles. Et ma finalité, c'est pas mon voisin qui me la donne, c'est moi-même qui la découvre. Je la porte en moi, ma finalité. C'est pas parce que sur certains points nous ne sommes pas d'accord que nous n'avons pas la même finalité. Vous voyez ? Et au fond, c'est toute la question du socialisme. Et je comprends que c'est très difficile à voir. C'est des problèmes qui ne sont pas communs du tout. Et la métaphysique nous est donnée pour que nous ne nous laissions pas séduire par ce platonisme qui est toujours latent. Alors, dernier point de vue. Pourriez-vous aussi revenir sur la spécificité du regard métaphysique sur la personne humaine par rapport à un regard de philosophie du vivant sur la personne humaine. Pourquoi ne pas faire l'analogue du regard métaphysique sur le comment de la personne humaine en philosophie du vivant après la découverte des principes, un regard sur le comment de l'homme vivant comme personne. Très juste en ce sens que je vous ai dit au point de départ. On a de fait ramené la personne au vivant. C'est un fait, ça. Je constate ça. A-t-on raison ou n'a-t-on pas raison? C'est le gros problème. J'ai mis des années à dire que en métaphysique, on doit étudier la personne. J'en suis convaincu maintenant. Mais j'ai mis plus de 30 ans à le dire. C'est que je fais une coupe direct sur ce que c'est que la personne. Est-ce que le regard du vivant suffit? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que le regard sur la vie suffit à dire ce que c'est que la personne? Je dis non. Parce que la personne est commandée par la finalité. Quelqu'un qui n'a pas de finalité n'est pas une personne humaine. Psychologiquement, il peut être très riche, avoir une ampleur énorme, un succès énorme, mais il n'a pas touché le principe, la fin. La personne humaine présuppose la découverte d'un principe, la fin. Alors, Est-ce que la découverte de la fin est d'ordre métaphysique ou d'ordre psychologique? La découverte de la fin de l'être, l'acte, est une recherche métaphysique. Ce n'est pas une recherche psychologique. La découverte de la fin de l'être. Or, la découverte de la personne, est-ce qu'elle n'est pas toujours cette découverte de la fin métaphysique? Quand je dis que la fin de l'homme est la contemplation, est-ce que je dis ça au point de vue psychologique? Ou est-ce que je dis ça au point de vue métaphysique? L'homme, son activité humaine, implique nécessairement le développement de l'esprit, donc de l'intelligence et de la volonté. Est-ce qu'il implique ce développement de l'intelligence et de la volonté uniquement au niveau des moyens? Prudence. Ou implique au contraire une découverte d'une véritable finalité de l'esprit. De l'intelligence. Et du cœur. Or, cette finalité de l'intelligence et de la volonté est au niveau de l'acte. Puisque la fin, ce au-delà de quoi il n'y a rien. Au-delà de la psychologie du vivant, il y a justement l'intelligence qui saisit ce qui est et qui comprend que ce qui est vivant est plus profondément, plus radicalement. Et quand il s'agit de l'esprit, la vie ne suffit pas à finaliser l'esprit. Parce que la vie, ça demeure dans l'immanence. Alors que la fin de l'esprit touche le transcendant. Je comprends que ces problèmes, c'est très bien de les avoir écrits, parce que il faut faire sortir tout ce qui en nous gêne. Métaphysiquement, que la métaphysique nous gêne, dans le climat d'aujourd'hui, je comprends très bien. Parce que elle est tellement difficile à communiquer. Alors on se dit, est-ce que c'est la peine de maintenir une métaphysique? Alors je dirais, si on est croyant, maintenir la métaphysique, c'est maintenir la théologie. Si je ne suis pas croyant, maintenir la métaphysique, c'est essayer de comprendre le sens profond et ultime de ma nature humaine. Et donc, de saisir d'une façon ultime ce qu'est la personne humaine. Tant que je n'ai pas saisi que la personne humaine pouvait contempler d'un mystère divin, Dieu. Tant que je n'ai pas saisi ça, je comprends très bien qu'on a envie de dire la métaphysique, c'est pas la peine, la psychologie est bien plus importante, pratique, c'est sûr. Parce qu'on vit au niveau psychologique, je ne vis pas au niveau métaphysique. C'est ça qui est terrible. Je ne vis pas au niveau métaphysique. La métaphysique me dépasse toujours. Alors, si je suis croyant, je comprends très bien que je dois dépasser le point de vue psychologique, parce que Dieu n'est pas dans ma psychologie. Donc, je ne peux pas parler de Dieu si je n'ai pas dépassé la psychologie. La psychologie, c'est l'étude de l'homme pour l'homme. Vous voyez ? Autrement dit, on touche, c'est tout à fait normal, on touche par la métaphysique tout de suite les rapports de l'intelligence et de la foi. S'il n'y a plus la métaphysique, on tombe dans le fidéisme. On ne peut parler de Dieu que par la foi. Mon intelligence n'est pas faite pour ça. Et c'est très vrai, mon intelligence humaine n'est pas faite pour ça. Mon intelligence, comme intelligence, est faite pour cela.